Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
18h01, c'est le retour de l'Intégral Sport sur RMC, le temple du sport en live. On a vécu de belles émotions cet après-midi, tour d'horizon de l'actualité de ce samedi et du week-end. Je vous rappelle que Remco Evenepoel, le Belge de la Quick-Step, a remporté pour la deuxième fois de sa carrière la Classica San Sebastian. Il a fait une véritable démonstration, on l'a suivi évidemment avec Arnaud Souk au commentaire, c'était tout à l'heure. Du côté des femmes, la 7e étape du Tour de France Femmes a tenu toutes ses promesses entre Célesta et le Markstein. Dans les Vosges, 3 cols de première catégorie étaient au programme pour les coureuses. C'est Annemiek van Vleuten, la Hollandaise de la Movistar, qui a écœuré elle aussi tous ses adversaires. Elle a peut-être assommé la course en devançant de plus de 3 minutes sa compatriote Demi Vollering. L'autre Hollandaise, qui était maillot jaune au début de l'étape, Marianne Vos, termine loin derrière. Elle n'a plus aucun espoir de remporter la course qui se termine demain à la super planche des belles filles. Belle performance de notre Française Juliette Labouze. Valentin Jamin nous le disait, peut-être un espoir, pourquoi pas de podium demain. Qui sait, on va encore vibrer sur les routes du Tour de France femmes. Du côté de la Formule 1, 13e manche du Grand Prix, 13e manche de la saison de Formule 1, c'est demain Grand Prix de Hongrie sur le Hungaroring. Et une surprise en qualif pour la première fois, aucune Red Bull, aucune Ferrari demain en pole position. Non, la Mercedes de George Russell, le pilote britannique de l'écurie allemande. C'est lui qui s'est montré le plus rapide, vous l'avez vécu avec les commentaires. Ça nous a mis la chair de poule, hein, Jean-Luc Roy, hein, lorsqu'il commente les qualifs. Le Britannique qui a devancé les Ferrari de Carlos Sainz, deuxième, Charles Leclerc, troisième, Lando Norris sur McLaren, quatrième, Ocon Alonso, beau tir groupé des Alpines, en troisième ligne, et Verstappen, le leader du championnat du monde, champion du monde en titre, dixième seulement sur sa Red Bull. Sergio Perez, son coéquipier de l'écurie autrichienne, avait été éliminé en Q2. Tout ça, c'était évidemment en live sur RMC cet après-midi. On s'est régalé. L'arrivée du Tour de France Femmes et le Grand Prix de Hongrie, ce sera à suivre en direct demain sur RMC. Mais vous le savez, l'un des événements du week-end, c'est le retour du foot en club. Demain, Trophée des Champions PSG Nantes, on en parlait à l'instant avec Arthur Perrault, ça se passe du côté de Tel Aviv, c'est à 20h, ce sera à suivre en intégralité sur RMC. Tout à l'heure, la Ligue 2, ça a commencé à 15h, Dijon-Saint-Etienne, on va débriefer dans un instant la défaite des Verts battus donc à Dijon 2-1. Johan Bredov est avec nous pour nous raconter ce qui s'est passé un petit peu du côté de Dijon. Et avant ça, je vous en parlais avant qu'on se quitte pour quelques minutes de pub, le Community Shield en Angleterre, l'équivalent anglais du Trophée des Champions. Alors, parenthèse, hein, j'ai dit une énorme bêtise tout à l'heure, ça avait été créé en 1955, d'où mon erreur, mais c'est la 46e édition chez nous, la 100e en Angleterre. Pierre Thévenet, Liverpool, Manchester City, c'est l'affiche de rêve pour ouvrir la saison de club en Angleterre du côté du King Power Stadium de Leicester.
Ouais, salut Simon, salut à tous. Quoi de mieux pour lancer la saison de foot qu'un City-Liverpool? Une magnifique affiche ici à Leicester. Les deux équipes se sont jouées le titre jusqu'à la dernière journée l'an passé. Elles se retrouvent aujourd'hui, City en tant que vainqueur de la Premier League, Liverpool de la FA Cup. Et on s'attend à un gros match. Les derniers affrontements ont été mémorables. Sur les 4 derniers matchs, au moins 4 buts par match. Le dernier 0-0 entre les deux équipes, c'était en 2018. Donc on devrait avoir du spectacle.
Formidable. Des infos sur la compo. Erling Haaland titulaire, mais pas la recrue uruguayenne de Liverpool en attaque.
Exact.
C'est Firmino qui lui a été préféré. Je dis pas de bêtises.
Exactement. La grosse info côté City, c'est que Erling Haaland est titulaire. Autour de lui, c'est du classique. À part Aymeric Laporte qui est blessé, tout le monde est là. Je vous fais la compo rapidement. Ederson dans les buts. Walker, Ake, Diaz, Cancelo, Silva, Rodri et Kevin De Bruyne au milieu de terrain. Et Mahrez et Jack Grealish qui encadrent Haaland. Deux autres crues, Calvin Phillips et Julian Alvarez, sont sur le banc. Côté Liverpool, on a deux absents notables, Alisson Becker et Diogo Jota. Sinon, c'est du classique sans la recrue Darwin Núñez, tu l'as dit, qui est sur le banc. Adrien est dans les cages, Matip et Van Dijk en défense centrale, Trent Alexander-Arnold et Robertson sont latéraux. Henderson, capitaine, dispute son 450e match avec les Reds. Il est avec Fabinho et Alcantara au milieu de terrain et devant Mohamed Salah, Luis Diaz et Firmino.
Oh là là, des effectifs de rêve pour ce Community Shield, 100e édition de l'équivalent de la Supercoupe d'Angleterre, Liverpool, Manchester City au King Power Stadium de Leicester et non à Wembley, puisque Wembley accueille demain la finale de l'Euro de football féminin entre l'Angleterre et l'Allemagne. Pierre Thévenet, les yeux et les oreilles de RMC pour ce Community Shield. Tu interviens évidemment dès qu'il se passe quelque chose du côté de Leicester, des buts, une exclusion, une engueulade, quoi que ce soit qui soit digne de d'être raconté sur l'antenne. À tout à l'heure. Pour l'instant, nous, comme promis, on se penche sur cette première journée du championnat de Ligue 2. Hein. Alors, ce n'est que la Ligue 2, mais ça sent bon le retour du foot de club. Johan Bredov à la banane. Il s'est régalé. On a suivi ça, effectivement, dans la rédaction tout à l'heure. Salut, Johan.
Salut, Simon. Salut à tous.
Dijon-Saint-Etienne, donc c'était l'affiche pour ouvrir ce championnat de Ligue 2 2022-2023. Saint-Etienne, évidemment, qui descend de l'étage supérieur, hein, relégué de Ligue 1. Défaite des Verts, Johan. Les Verts qui ont totalement manqué leur première période.
Ouais, c'est ça, ça a mal débuté pour les Verts. On était très curieux de voir comment les Stéphanois allaient se comporter pour ce premier match en Ligue 2 depuis 2004, hein, quand même pour les Verts qui étaient installés en Ligue 1. Ils sont descendus. Nouvel entraîneur, Laurent Batelès, spécialiste de la montée. Il était monté avec trois notamment. Et nouveaux joueurs, donc. Il y a eu cinq recrues dans le mercato d'été pour les Stéphanois. Un est blessé, c'est Chambost, hein, encore 3 à 4 semaines d'absence après une opération du poignet gauche. Et les 4 autres étaient bien sur la pelouse titulaire. On pense à Giraudon, Briançon en défense et Lobry et Cafaro qui ont commencé la rencontre. Cafaro qui était piston gauche d'ailleurs de ce 3-5-2. Mais voilà, c'est Dijon qui a mieux débuté la rencontre. Des Dijonais plus agressifs dans les duels, ça s'est concrétisé au score. 1-0 à la 29e suite à une grosse tiers erreur de Nadé, et puis 2-0 à la 41e, c'est Soumaré qui reprend une frappe mal repoussée par Étienne Green. Donc 2-0 à la mi-temps, deux buts qui sont venus du côté droit, le côté de Briançon et de Masson. Il y a eu donc des changements à la pause pour Laurent Batelès. Cafaro qui est revenu dans l'axe du jeu, dans le cœur du jeu. Banga qui a été décalé piston gauche, lui qui a évolué à ce poste sous Claude Puel. Et voilà, c'était un petit peu mieux pour les Stéphanois, mais ça a très mal débuté dès l'entame de cette seconde période avec deux grosses occasions énormes à la 49e par Nassi, à la 50e par Le Bihan, les Dijonais. Le Bihan d'ailleurs qui a manqué de but vide. Mais forcément, Saint-Etienne, qui a eu l'espoir justement avec ces deux énormes occasions manquées, qui est revenu à 2-1 grâce au tout jeune d'ailleurs Aiki qui était rentré à la pause. 17 ans. But un peu chanceux, mais voilà, 2-1, on y a cru pour Saint-Etienne, mais finalement, assez inoffensif les Stéphanois, et ça a fini par ce carton rouge, à l'image de cette rencontre, ce carton rouge reçu par Denis Bouanga, qui a dit à l'arbitre de la rencontre, vous êtes zéro, et forcément, carton rouge direct de Bouanga, qui a certainement joué, on va y revenir, mais son dernier match sous les couleurs stéphanoises, mais voilà, c'était un peu un match à l'image de la saison dernière en Ligue 1, ça a mal débuté, les Stéphanois qui ont cru, mais ça reste une défaite pour cette première rencontre, 2-1, et surtout, les Stéphanois, qui comptent déjà 6 points de retard sur Dijon, et oui, forcément, les trois points en moins suite aux incidents de la saison dernière. Donc défaite de Saint-Etienne pour cette première journée sur la pelouse de Dijon, 2-1.
Et voilà, une première ratée pour les joueurs de Laurent Batelès en Ligue 2, et à l'inverse, belle première pour Omar Daf, débarque sur le banc de Dijon. Nul doute qu'on reparlera de cette équipe de Dijon et d'un Mickaël Le Bihan, Mickaël Le Bihan qui aurait pu inscrire un triplé. Énorme occasion sauvée par Green en première période sur une superbe contre-attaque dijonnaise. Et puis, tu le disais, c'est immanquable, cette occasion, ce but vite raté. On va aller voir un supporter des Verts. On accueille Pierre dans l'Intégral Sport, supporter des Verts, forcément un petit peu déçu. Salut Pierre.
Salut messieurs.
Salut Pierre.
Tu as senti dès le début du match que ça allait être compliqué, ou tu y as cru toi?
Mais on y a cru au début, à part que Dijon a fait une bien meilleure entame que les Verts. D'entrée, comme le disait Johan, dans l'intensité, dans la maîtrise de balle, c'est Dijon qui menait le jeu au début. Ensuite, j'ai trouvé que défensivement, on a été un petit peu juste côté stéphanois, avec comme le disait Yohan, quelques recrues derrière, donc c'était un peu difficile peut-être de s'entendre, voilà. Bon, on va leur laisser le temps aux stéphanois de prendre leur marque, mais bon, je pense qu'il y a encore des progrès à faire derrière. Et ensuite, nous allons sûrement perdre Denis Bouanga, qui a été annoncé, je crois, à MLS. Du coup, on attend des dirigeants, peut-être des petites recrues, notamment devant. Il y en a besoin pour supplier Crasso et les petits jeunes, Aiki, Rivera, qui ont fait une bonne rentrée, d'ailleurs, je trouve.
Justement, Johan, qu'est-ce qui attend les Verts? C'est vrai que ça devrait bouger. Bon, gars, on en parle du côté de Los Angeles. Je crois que c'est Gareth Bale qui a réclamé sa venue. Non, mais on en parle effectivement en MLS du côté du club californien. Qu'est-ce qui attend les Verts côté mercato? Et puis, donne-nous le programme et de la prochaine journée pour Saint-Etienne.
Ah bah, forcément, faut que des joueurs partent. Hein. Côté stéphanois, on l'a dit, Bouanga, Los Angeles. Pourquoi pas pour 7 millions d'euros, évidemment, pour enflouer les caisses stéphanoises. C'est très important. On parle aussi du départ d'Aouchich. Hein. Lui, c'est 170 000 euros bruts mensuels. Forcément, pour la Ligue 2, ça risque d'être compliqué d'assumer ce salaire. Il y a aussi Camara, pourquoi pas, qui pourrait partir. Neyou, qui est en discussion avec Clermont, même si ça patine un peu en ce moment, qui pourrait partir pour 1,5 million. Mais voilà, faudra dégraisser avant de recruter pour Saint-Etienne. Et côté arrivée, on parle notamment des joueurs offensifs, Tousgar, Gerbich, ou encore de Préville qui est libre. Voilà, Pierre le disait, faudra trouver quelqu'un pour évoluer aux côtés de Crasso qui est un très bon joueur de Ligue 2. Il l'a montré la saison dernière avec Ajaccio. Bouanga va partir. Alors des départs d'abord, puis ensuite on verra pour les arrivées.
Pierre, tu restes confiant malgré cette entame ratée pour les Verts. Évidemment, j'imagine que les supporters verts, ils n'ont pas encore perdu espoir.
On n'a pas perdu espoir. Après, les 3 points de retard, ça fait mal. On sait que le championnat de Ligue 2, il est très dur, très dense. C'est long, un championnat. Et ça peut se jouer à pas grand-chose. Donc, au final, les 3 points, ça peut être jouer à notre défaveur. Mais bon, la saison est longue. Le temps que le groupe se mette en place, après, on reste quand même confiant. On est toujours là pour les Verts.
Pierre, abonné à Geoffroy Guichard, tu vas souvent au stade. Le soutien va être encore plus important, j'ai envie de dire, à l'étage inférieur.
Pas abonné, je suis trop l'air, mais je vais de temps en temps au stade, ouais. Sur les matchs importants, sur les gros matchs, c'est vrai qu'on a besoin des supporters, surtout en Ligue 2, quand les matchs comme ça sont très intenses, les équipes en face mettent beaucoup d'intensité, et donc il faudra ce petit supplément d'âme qu'on a toujours, nous, à Saint-Etienne, donc ça peut jouer en notre faveur aussi sur les matchs à domicile.
Bon, mais, voilà. Attention aux débordements, aux fumigènes et aux jets de projectiles, hein. Ça a déjà coûté bien cher aux supporters. Merci beaucoup Pierre et à très bientôt sur l'antenne de RMC. On va suivre évidemment d'un œil très attentif la saison des Verts qui font malgré leur défaite inaugurale figure d'épouvantail, hein, comme on dit dans le jargon de temps en temps. Qu'est-ce qui attend les Verts? C'est quoi le programme en championnat, Johan?
Bah justement, la prochaine journée, c'est samedi, ça sera la réception de Nîmes. On rappelle aussi que les Stéphanois devront évoluer sans leurs supporters, hein, un match à huis clos pendant 4 matchs à domicile suite aux incidents là également la saison dernière. Donc voilà, Saint-Etienne-Nîmes à huis clos, ce sera à suivre samedi à 15h.
Et évidemment, vous suivrez ça sur RMC, cette saison de Ligue 2 qui s'annonce passionnante, notamment par la présence de Saint-Etienne, de Bordeaux, où on se rendra tout à l'heure voir Nicolas Paolorsi, Bordeaux qui accueille Valenciennes et pour qui c'est déjà une victoire, hein, de disputer cette première journée de Ligue 2. Et puis également, n'oublie pas le FC Metz, le Paris FC, Sochaux, toutes ces équipes qui vont être à la lutte pour la montée en Ligue 1, une saison de Ligue 2 qui s'annonce passionnante. Merci beaucoup, Johan, d'être venu débriefer. Merci, ce Dijon Saint-Etienne. À très vite sur RMC. On va faire un détour, nous, par le King Power Stadium de Leicester. C'est le retour également de la saison de foot en club en Angleterre. Le Community Shield, équivalent de la Super Coupe pour nos amis anglais. Liverpool City, Pierre Thévenet, où en est-on? Est-ce que ça a bougé? Est-ce qu'il y a une équipe qui domine?
Alors, c'est très équilibré. Ce qui est sûr, c'est que le foot anglais est de retour. Il y a une grosse intensité dans ce début de match. Mo Salah a eu une belle opportunité tout de suite, une frappe dans le petit filet. Kevin De Bruyne lui a répondu par la suite avec une frappe dans le petit filet lui aussi. Ça va très vite d'un but à l'autre. Il y a quelques erreurs techniques, mais en tout cas, il y a de l'intensité. Là, actuellement, c'est Liverpool qui est autour de la surface de réparation de Manchester City. Firmino revient finalement derrière avec Trent Alexander-Arnold. En tout cas, c'est très équilibré. Ça va d'un but à l'autre. C'est un match très plaisant.
Pierre, tu nous fais signe, micro ouvert, évidemment, dès qu'il se passe quelque chose, dès que l'une des deux équipes marque, et sinon on reviendra te voir à intervalles réguliers pour suivre le déroulé de cette affiche de rêve, hein, Liverpool vainqueur de la CUP face à Manchester City, champion d'Angleterre en titre. Ça se passe du côté de Leicester, on vous le disait, parce que Wembley accueille demain l'Euro, la finale de l'Euro de football féminin entre l'Angleterre et l'Allemagne. Vous ne bougez pas, l'Intégral Sport se poursuit dans un instant après avoir débriefé le premier match de cette première journée de Ligue 2 cette saison. Il va être temps de se pencher sur les 8 rencontres qui nous attendent tout à l'heure. Ce sera à suivre en direct autour de Benoît Boutron dans l'Intégral Sport. Mais avant ça, on va aller prendre, humer un petit peu l'ambiance, prendre la température autour de ces rencontres, et notamment à Bordeaux où c'est chaud parce que c'est déjà une victoire de disputer cette saison en Ligue 2. Bordeaux qui avait été rétrogradé en National 1 avant d'être repêché in extremis en début de semaine. Nicolas Paul Orsi, notre correspondant sur place, nous dira tout et nous plongera dans cet avant-match, dans ce Bordeaux-Valenciennes. Vous ne bougez pas, l'Intégral Sport revient tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Sport,
Simon Dutin.
18h18, c'est le retour de l'Intégral Sport qui se poursuit sur RMC. Ça ne s'arrête jamais, RMC, le temple du sport en live. On fait un tour d'horizon de l'actualité sportive de ce samedi et du week-end. Vous avez vécu la victoire de Remco Evenepoel à la Classica San Sebastian, la victoire de Annemiek van Vleuten dans le Tour de France Femmes, la Hollandaise de la Movistar qui a peut-être renversé la course et qui a peut-être remporté ce Tour de France tout à l'heure. Et puis la pole position de George Russell, le pilote britannique de Mercedes, qui s'élancera donc en tête demain à 15h lorsque les feux s'éteindront sur le circuit du Hungaroring, la 13e manche d'une saison de Formule 1 passionnante, toujours dominée par un Max Verstappen, le champion du monde en titre, qui partira lui en 10e position. Carlos Sainz 2e et Charles Leclerc 3e ont placé les Ferrari là où on les attendait. On va se plonger comme promis dans les avant-matchs de 8 rencontres qui se disputent tout à l'heure à partir de 19h dans cette première journée de Ligue 2. On a toujours un œil sur le Community Shield, la Super Coupe d'Angleterre entre Liverpool et Manchester City. Pierre Thévenet nous fera signe dès qu'il se passe quelque chose, toujours 0-0 entre les Reds et les Citizens. Et puis, vous le savez, notre conducteur, notre début d'émission a été un petit peu bousculé. C'est ça aussi la force et les contraintes du sport en live. On s'adapte. Du coup, on a été obligé de renvoyer Nicolas Pelletier à la maison. On n'avait pas de place pour le Mercato Show. Je vais vous donner quand même quelques infos que Nicolas vous avait préparées. Du côté de l'OM, on a officialisé l'arrivée du fameux piston gauche. Vous savez, ce ne sera pas le Serbe qui était pisté Lazovic, ce sera le Portugais Nuno Tavares. Il est prêté par Arsenal pour une saison, 22 ans, le Portugais qui débarque sur la Canebière sans option d'achat. Il vient former la paire, la symétrie avec Jonathan Klaus qui est lui arrivé de Lens pour occuper le poste de piston droit. Toujours à l'OM, on parle d'un deuxième joueur de Lens après Jonathan Klaus, ça pourrait être Seko Fofana, l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 la saison dernière. Le milieu de terrain de 27 ans est surveillé de longue date par l'OM. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien Lens en demande, et l'indemnité de transfert pour le joueur sous contrat jusqu'en 2024 pourrait être un petit peu excessive. À Rennes, on cherche toujours à se renforcer en défense centrale, on poursuit le recrutement. On parle du Gallois Joey Rodon, le Gallois de Tottenham qui a très peu eu sa chance en deux saisons du côté des Spurs. Le club breton qui se serait définitivement entendu avec les Spurs pour un prêt avec option d'achat, cette fois-ci fixé à 20 millions d'euros. Il se dit que l'international gallois est attendu dimanche, demain donc, en Bretagne pour passer la visite médicale. À Nice, on cherche un latéral gauche et on se penche sur le cas de Alex Telles. Ce serait un super coup pour les Aiglons. Alex Telles, le joueur de Manchester United, ça fait 2 ans qu'il joue là-bas. Il était arrivé pour 15 millions d'euros en provenance de Porto. Il est désormais le 3e choix à Manchester à son poste. Affaire à suivre, évidemment, ça s'annonce peut-être compliqué au niveau du salaire, mais bon, pourquoi pas. Et puis cette info en Première Ligue, Newcastle qui a toujours beaucoup d'argent à dépenser, qui a fait une grosse offre à Leicester pour notre ami James Maddison, vous savez, le milieu de terrain offensif de Leicester qui ne veut pas se séparer de son joueur de 25 ans et qui a donc refusé les 47 millions d'euros. Leicester qui en réclame 71 pour libérer son joueur. On verra si ça décourage ou pas les dirigeants des Magpies qui sont, rappelons-le, désormais le club le plus riche du monde. Vous retrouverez le Mercato Show évidemment demain et toutes ces infos Mercato seront reprises par la bande de l'After Foot autour de Nicolas Jamin tout à l'heure. Mais pour l'instant, comme promis, on va se pencher sur l'avant-match des 8 rencontres de cette première journée de Ligue 2. Je vous rappelle que Saint-Etienne s'est incliné tout à l'heure à 15h du côté de Dijon. Victoire 2-1 des Dijonais. Le bilan sous-marin pour Dijon. Aïki, le jeune Aïki, 17 ans, qui a réduit l'écart pour les Verts. Le programme, je vous le donne, Bordeaux-Valenciennes, Annecy-Niort, Bastia-Laval, Le Havre-Grenoble, Guingamp-Pau, Quevilly-Rouen, Rodez, Metz-Amiens, Nîmes-Caen, Dijon-Saint-Etienne. Et lundi, c'est la tradition, l'affiche du lundi soir, Sochaux qui accueillera le Paris FC pour une rencontre entre deux prétendants à la montée. On va se rendre tout d'abord du côté du stade Saint-Symphorien. Ah ben alors avant ça bougeait pas, ça bouge au King Power Stadium. Pierre Thévenet, une des équipes a ouvert le score, Community Shield, Liverpool City.
Et oui, c'est Liverpool qui ouvre le score par Trent Alexander-Arnold. Les Reds ont fait passer le ballon de gauche à droite de la surface de réparation, ils devenaient pressants, c'est eux qui avaient les plus grandes occasions. Et au final, sur une frappe à l'entrée de la surface de réparation, c'est Trent Alexander-Arnold qui marque sur un poteau rentrant, ça fait 1-0 pour Liverpool.
1-0 donc pour les Reds, un petit peu contre le cours du jour. En tout cas, si on se fie à ce que tu nous disais tout à l'heure, les Citizens qui avaient une grosse occasion par De Bruyne. Et c'est Liverpool qui a donc réagi par Trent Alexander-Arnold qui donne l'avantage à son équipe. Lui, l'ultra offensif latéral droit qui était à la réception d'un centre en retrait de Salah à l'entrée de la surface de réparation. 1-0 donc pour Liverpool dans ce Community Shield, l'équivalent anglais de notre trophée des champions. Même si on sait que chez nos amis anglais, ah tiens, c'est, je crois que Nathan Aké a dévié un petit peu ce ballon de la tête et a surpris son gardien Ederson. 1-0 donc pour Liverpool face à City. Pierre Thévenet, les yeux et les oreilles de RMC sur cette rencontre qui nous fait signe dès que ça bouge. Nous, comme promis, on part à Saint-Symphorien, Metz-Amiens. Bonsoir Patrick Muller.
Bonsoir Simon Dutin.
Alors, cette ouverture de saison de Ligue 2, Metz, je crois qu'il est le favori des bookmakers, hein, des gens qui organisent les paris sportifs en France pour la montée en Ligue 2. Du coup, on va essayer de pas se rater pour cette première, pour les Grenats.
Ah bah oui, ce serait une bonne idée, d'autant qu'il reste sur une saison assez cataclysmique, hein, 19e la saison dernière en Ligue 1 avec 31 petits points simplement. Et peut-être que cette équipe de Metz a les faveurs des pronostiqueurs parce qu'elle a un certain savoir-faire, si je puis dire, en termes de remontée immédiate, hein, parce que là c'est la 6e en 20 ans quand même, hein, depuis la première relégation des Grenats en Ligue 2, c'était en 2002. Et bien sur les 5 précédentes, 4 fois les Grenats sont remontés immédiatement en Ligue 1. Donc l'instabilité, on connaît, la capacité à se réinventer et à rebondir, on connaît aussi, quoi.
Alors ça a bougé sur le banc, ça a bougé dans les bureaux, la Slow Bologna est arrivée, Pierre Drey aussi du côté du FC Metz. Qu'est-ce que ça a changé un petit peu dans le fonctionnement? Qu'est-ce que ça a changé dans la compo? Quelle est celle qui est attendue pour cette première rencontre?
Ah bah c'est une vraie fin de cycle et un nouveau cycle qui s'ouvre. Et effectivement, ce ticket Pierre Drey aussi, la Slow Bologna, un attelage qui a l'habitude de fonctionner ensemble. La dernière fois, c'était au Panathinaikos il y a quelques mois de ça. Stratégiquement et en termes de recrutement, on a surtout misé sur les retours de prêt, en fait, avec beaucoup de cadres qui sont partis, des joueurs qui étaient en fin de contrat. Et ça nous donne une équipe assez rajeunie, avec par exemple des garçons comme Miko Tadze qui revient de Serein en Belgique, c'est le club satellite du FCMS qui évolue en première division belge. Des garçons comme Youssef Mahaziz également. D'autres qui seront revanchards comme Ibrahima Nian. Pas beaucoup d'arrivées, hein. Le seul Ismaël Traoré qui est arrivé en fin de contrat, du côté d'Angers après cette belle saison au SCO, qui n'est pas aligné ce soir parce qu'il a eu le Covid et il n'est pas opérationnel pour ce match. Une équipe donc plutôt jeune, mais qui a donné quelques gages en termes de qualité de jeu, notamment lors du dernier match amical face à Sochaux où on a vu des combinaisons intéressantes. Mais c'est un petit peu l'inconnu, on repart un peu dans l'inconnu, mais avec quand même quelques éléments de qualité, j'ai envie de dire, face à une équipe d'Amiens qui espère faire mieux que la saison dernière, un 14e seulement pour les hommes de Philippe Hinsberger, avec une entame catastrophique, trois défaites sur les trois premiers matchs, et la première victoire qui est arrivée au bout de la 10e journée. On espère faire mieux avec un groupe resserré du côté du club Picard.
Metz-Amiens, c'est l'une des affiches de cette première journée de Ligue 2 version 2022-2023. Patrick Muller, tu seras au commentaire avec tout plaisir à l'heure dans l'Intégral Sport autour de Benoît Boutron avec Gaël Angoula en dit désormais monsieur. Angoula au sifflet, lui l'ancien joueur professionnel qui aimait bien mettre des petits taquets et qui est désormais un arbitre respecté et parmi les plus compétents de notre panel d'arbitres. À tout à l'heure Patrick, sur RMC. Metz-Amiens, l'une de ses affiches. On va continuer de se projeter dans les avant-matchs des 8 rencontres de Ligue 2 qui débutent à 19h. Dans un instant, l'Intégral Sport revient. On ira du côté de Bastia, à Bastia Laval. Bastia, candidat éventuel à la montée face à Laval, promu, mais auréolé de son titre de National 1. On en parle dans un instant dans l'Intégral Sport. À tout de suite.
RMC Intégral Sport. Simon Dutin.
18h31, vous êtes bien sûr RMC, c'est le retour de l'Intégral Sport. On est ensemble en direct jusqu'à 19h, heure à laquelle vous retrouverez Benoît Boutron pour suivre en direct plusieurs affiches, plusieurs des 8 affiches de cette première journée de Ligue 2 de cette saison 2022-2023. On était juste avant la coupure du côté de Saint-Symphorien pour l'avant-match de Metz-Amiens. S'il vous sera commenté par Patrick Muller tout à l'heure, on va se rendre du côté de Laval, retrouver Julien Pernicci. Salut Julien.
Salut Simon, on est du côté de Bastia et pas de Laval.
C'est j'ai, Bastia dit côté, Laval. J'ai dit du côté de Laval.
Oui, tout à fait.
Oh là, c'est parce que j'ai été tellement marqué par le retour des Lavalois. On est évidemment du côté de Bastia avec
le Julien. Climat n'est pas tout à fait pareil.
Mais oui, et puis même avec ton nom de famille, on pouvait se douter qu'on était plus au sud qu'à Laval. Toutes mes excuses, mon cher Julien. On est évidemment à Bastia qui reçoit donc le promu Lavalois. Julien, je le disais avant la pub, Bastia candidat possible, probable, potentiel à la montée face à une équipe lavalloise qui va d'abord essayer d'assurer son maintien, Laval champion de National 1 la saison dernière.
Alors, on va rester un peu raisonnable, Simon. Il y a quelques supporters qui veulent, bien entendu, que le Sporting se mêle à la lutte à la montée, mais l'objectif officiel, c'est le top 10 dans un championnat qui va être de façon très difficile avec 4 descentes, on le rappelle, cette saison. Il va falloir vraiment se battre pour aller chercher le maintien. Côté Bastier, c'est tout simplement une équipe qui a très très bien marché lors des matchs amicaux, qui a complété son recrutement selon Régis Brouard et qui va avoir une composition d'équipe quasiment similaire à celle du dernier match amical, avec quelques nouveaux, notamment Van den Kerkhove sur le côté droit de la défense, meilleur joueur du championnat du Luxembourg, Tavares qui évoluait jusque-là en Ligue 2 suisse. Voilà, c'est-à-dire un recrutement avec pas beaucoup de joueurs qui ont connu la Ligue 1 et la Ligue 2, mais des joueurs jeunes. Et puis du côté de Laval, c'est une équipe qui reste quand même très fidèle à celle qui était en national, avec notamment un joueur qui va être très attendu ce soir dans le public, c'est Julien Maggiotti qui est originaire de Bastia, qui aurait bien aimé jouer au Sporting Club de Bastia et qui va découvrir le professionnalisme avec Laval sur une pelouse qu'il connaît très bien.
Alors à Bastia, tout le monde est là, plusieurs absents du côté du promu tout de même.
Du côté du promu il y a plusieurs absents, plusieurs blessés en effet, mais malgré tout les Lavalois vont bien se défendre parce que c'est une équipe qui est quand même plutôt rodée, qui a très très bien marché national. D'ailleurs, pour anecdote, c'est le match entre les deux derniers champions nationaux ce soir du côté de Fouriane. Il y a des joueurs d'expérience comme Jimmy Roy qui peuvent faire du mal, et aussi Geoffrey Durban à la pointe de l'attaque qui a très très bien marché à l'époque en national et qui peut lui aussi faire très mal. Il va falloir faire très attention du côté de la défense bastiaise.
Laval avec un ambitieux 3-5-2 si l'on en croit la composition annoncée par différents médias. Petite question Julien, on en parlait en rigolant il y a un mois ou un peu plus lorsqu'on avait appris. Je crois que Laval, est-ce que tu as aperçu l'étoile sur le maillot des tangos? Laval qui a décidé, un petit peu comme Marseille, Saint-Etienne ou le PSG, de mettre une étoile sur son maillot pour célébrer ce qui est jusqu'à présent le premier titre dans l'histoire du club. Ce titre de National 1, Laval qui arborera donc une étoile. Ne soyez pas surpris devant votre téléviseur, hein, vous ne la verrez pas sur RMC. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça va.
Maillot, pour le moment, on ne l'a pas vu parce qu'ils ont le maillot d'échauffement. Mais ce sera quelque chose à observer, effectivement.
Ils ont promis qu'elle figurerait au bas du logo. Sur le mythique, hein, néanmoins maillot tango, comme on dit, Lavalois qu'on prenait orange. Merci beaucoup Julien Pernicci, qu'on retrouvera au commentaire de ce Bastia Laval en ouverture de cette première journée de Ligue 2 2022-2023. Julien qui a tempéré les ardeurs et les espoirs des supporters Bastia qui vise avant tout le top 10. On ne parle pas encore de montée, il y a un petit peu de vent, hein, on l'a entendu du côté du stade Furiani. On va partir du côté du Havre, retrouver Christophe Lécuyer. Salut Christophe.
Salut Simon, bonsoir à tous.
Le Havre-Grenoble, c'est l'affiche que tu vas commenter tout à l'heure en direct sur RMC à partir de 19h. Le Havre, 14e saison d'affilée hein, en Ligue 2. Le qu'on surnomme le club doyen, il l'est également en Ligue 2. Aucun club n'est au deuxième échelon professionnel depuis plus longtemps que le club normand.
Club doyen a plus d'un titre, effectivement, et 46e saison en Ligue 2 au total pour le Havre, un club où, vous le savez, tout a changé, ou presque, hein, cet été. Exit Paul Le Guen et son staff, exit également le directeur général Pierre Ventier. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé sur le banc ici au Stade Océane, c'est l'entraîneur slovène Luka Elsner, qu'on connaît notamment pour être passé par Amiens. Le patron du club, Vincent Volpe, qui est toujours le patron du club, mais qui a nommé un président, la personne de Jean-Michel Roussier, l'ancien président de l'OM et de Nancy notamment, et puis l'arrivée d'un directeur sportif bien connu aussi dans le milieu du foot français, Mathieu Bodmer. Bref, pas mal de nouvelles têtes ici à découvrir cette saison du côté du Stade Océane. Et puis évidemment un objectif, celui de ramener du public au stade. C'est la priorité de Luka Elsner. Il l'a encore dit cette semaine en conférence de presse. Il faut créer quelque chose, il faut qu'il se passe quelque chose ici au Stade Océane. Le début du championnat sera évidemment important pour une formation qui a recruté, mais qui doit encore recruter pour se renforcer, a indiqué Mathieu Bonnemer. Desmas, l'ex-clermontois, sera dans les buts ce soir. On découvrira également Gauthier Lloris en défense, l'ex-joueur de la JOCR, ou encore El Hajam, l'ancien Troyen qui débutera la partie tout à l'heure ici face à Grenoble.
Le Havre-Grenoble, c'est l'une des affiches de cette première journée de Ligue 2 2022-2023. Christophe Lécuyer, tu seras au commentaire tout à l'heure sur RMC à partir de 19h. Une autre info à donner sur les compos, la formation attendue des deux équipes, ou on a tout dit?
Un petit mot sur Grenoble, effectivement, où il y a pas mal déjà d'absents, notamment en défense avec la suspension de Monfray, la blessure de Neri, l'arrivée tardive de Paquies qui est bien dans le groupe mais qui débutera sur le banc des remplaçants. Donc on a dû effectivement imaginer une nouvelle composition du côté de Vincent Ognon. Gaspard, Nestor, le jeune Tchapchet et Gersbach débuteront ce match au Stade Océane ce soir au sein de la défense grenobloise.
Le Havre-Grenoble, commenté par Christophe Lécuyer, c'est l'une des affiches à suivre tout à l'heure à partir de 19h sur RMC autour de Benoît Boutron, tout comme Metz-Amiens avec Patrick Muller, Bastia-Laval avec Julien Pernici et Bordeaux-Valenciennes avec Nicolas Paolorsi, où l'on se rendra dans quelques instants après une petite coupure. Merci beaucoup Christophe et à tout à l'heure sur RMC. Avant de se quitter, on va faire un petit détour par le King Power Stadium de Leicester, le Community Shield, équivalent anglais de la Super Coupe. C'est le retour de la saison de club pour le foot anglais. Pierre Thévenet, Liverpool qui a ouvert le score tout à l'heure par Alexander Arnold. Est-ce que Manchester City a réagi?
Ah oui, Manchester City se rebiffe clairement. Une double occasion énorme pour Erling Haaland. D'abord lancé en profondeur par Bernardo Silva. Il résiste au retour du défenseur et frappe du gauche. Une frappe arrêtée par Adrian. Dans la foulée, il ne peut pas reprendre un beau centre au point de pénalty. 36e minute de jeu, toujours 1-0 pour Liverpool face à Manchester City. Mais les Mancuniens se réveillent.
Ce Community Shield assure évidemment en fil rouge dans l'Intégral Sport avec Pierre Thévenet, les yeux et les oreilles de RMC sur cette rencontre. Klopp qui mène pour l'instant 1-0 face à son vieux compère Guardiola. C'est Liverpool qui a ouvert le score dans ce Community Shield. Vous ne bougez pas, vous ne manquerez rien de cette rencontre et ni de la première journée de Ligue 2 de cette saison 2022-2023. Dans un instant, on va se rendre à Bordeaux, au Matmut Stadium. Bordeaux qui est déjà heureux de disputer cette première journée face à Valenciennes, mais maintenant je suis sûr que les Girondins vont vouloir viser un petit peu mieux. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
18h43, vous êtes bien sûr à RMC, c'est le retour de l'Intégral Sport. Je suis avec vous en direct jusqu'à 19h avant de faire la passe à Benoît Boutron pour vivre en direct 8 rencontres de cette première journée de Ligue 2. Première journée de Ligue 2 qui a commencé à 15h avec la défaite de l'AS Saint-Etienne sur la pelouse de Dijon. Lundi, c'est Sochaux qui recevra le Paris FC pour la traditionnelle affiche du lundi en Ligue 2. Je vous rappelle les événements qu'on a vécu en live sur l'antenne, la victoire de Remco Evenepoel, le Belge de la Quick Step qui a remporté de brillante manière la Classica San Sebastian. C'est Arnaud Souk qui nous a fait vivre l'arrivée tout à l'heure. Du côté des dames, Annemiek van Vleuten, la Hollandaise de la Movistar, a peut-être remporté le Tour de France Femmes 2022 en s'imposant au Markstein dans les Vosges. Elle a un petit peu écœuré la concurrence et elle a pris la première place du général à sa compatriote Vos, qui n'a pas pu suivre dans les trois cols de première catégorie de la journée. Et puis en Formule 1, les qualifications du Grand Prix de Hongrie, 13e manche de la saison d'un championnat de Formule 1 passionnant décidément, puisque c'est George Russell, le pilote anglais de Mercedes, qui signe la première pole position de sa carrière, la première pole position d'une autre monoplace qu'une Red Bull ou qu'une Ferrari cette saison. Carlos Sainz 2e, Charles Leclerc 3e, Lando Norris sur McLaren 4e, Ocon Alonso sur la Alpine 5e et 6e, Max Verstappen, c'est ça la grosse surprise, le champion du monde en titre, leader du classement des pilotes ne s'est qualifié qu'en 10e position. Ce Grand Prix à suivre demain à 15h sur RMC, évidemment. Mais comme promis, on continue de se plonger dans l'avant-match des rencontres de cette première journée de Ligue 2 2022-2023 avec l'une des affiches qui concerne l'équipe qui sera peut-être la plus scrutée cette saison avec l'AS Saint-Etienne et le FC Metz. C'est évidemment celle des Girondins de Bordeaux, le Bordeaux qui accueille Valenciennes dans un quart d'heure au Matmut Stadium, où l'on va retrouver Nicolas Paul Orsi, notre correspondant sur place. Salut Nicolas.
Salut Simon. Ah, j'entends un petit peu ton sourire, hein, parce que t'y croyais pas voir les Girondins en Ligue 2. Il y avait pas grand monde qui y croyait. Franchement, ça fait plaisir quand même.
De oui, ah bah effectivement, on va être tout à fait transparent avec nos auditeurs. C'est vrai que toi, en travaillant à Bordeaux dans la région, moi en étant originaire, et puis on va même saluer Nicolas Jamin qui prendra la main à 21h. C'est vrai qu'on a des racines bordelaises et c'est vrai que je te renvoie la question, Nico. C'est déjà une victoire pour tous les Bordelais de disputer cette rencontre ce soir face à Valenciennes en ouverture de cette saison de Ligue 2.
Bien sûr, parce que ça a été un été terriblement chaotique pour Bordeaux. Cette relégation, déjà, il y a cette saison catastrophique l'an passé où les Girondins terminent bon dernier avec des choses qui se sont passées au niveau de l'extra-sportif, des finances catastrophiques. Et puis, tu as ce passage devant la DNCG, les Girondins qui sont recalés, rétrogradés en National 1. Gérard Lopez qui dit que de toute manière, le club ne pourra pas assumer de survivre et de vivre en National 1. Donc, ce sera la liquidation judiciaire et le dépôt de bilan. T'as la commission d'appel de la DNCG qui recale une nouvelle fois les Girondins. Mais Bordeaux travaille pour essayer d'épaissir son dossier. Ils font un recours devant le CNOSF qui finalement dit oui. Et puis derrière, le COMEX de la Fédération française, mercredi, donc il y a seulement 3 jours, valide finalement le maintien des Girondins en Ligue 2. Ça a été vraiment un été terrible. Un été au cours duquel les Girondins n'ont pas pu recruter. Donc ça va être une équipe très très jeune. On a posé la question hier à l'entraîneur David Guillon en conférence de presse, savoir comment il avait vécu cette préparation et est-ce qu'il se sentait soulagé de démarrer cette saison.
C'est pas une finalité. On n'a pas gagné un trophée. C'est pas la fête non plus. Je suis un entraîneur ambitieux. Je veux retrouver la Ligue 1 avec les Girondins. Mais je suis aussi réaliste. Mon équipe, il n'y aura pas de renfort demain. Sur les 18, il y aura 14 garçons qui sont issus de Bordeaux. Donc, je suis réaliste également. Je sais qu'on a besoin de se renforcer et on va le faire dans les semaines qui arrivent. Mais je sais qu'on a pris du retard.
Alors, il y a du retard, mais on a récupéré quelque chose sur la saison dernière et sur les saisons dernières, j'ai envie de dire, Nicolas. C'est peut-être que... on va retrouver de l'ambiance, peut-être le Matmut Atlantique qui est annoncé à guichet fermé. Alors c'est à prendre avec des pincettes. Comment on a fait ? Combien seront les supporters ce soir au stade ?
Alors comment on a fait ? C'est très simple. Pour cette saison de Ligue 2, vous savez que la capacité totale du Matmut Atlantique est de 42 000 places. Moyenne des supporters girondins en Ligue 1 la saison passée autour de 24 000. Pour cette saison de Ligue 2, on a bien évidemment été lucide du côté des dirigeants. On savait qu'on pourrait pas remplir le Matmut Atlantique. Donc du coup, on a mis une jauge qui est plafonnée à 22 000 supporters tout au long de cette saison et du coup 22 000 billets ont été vendus pour ce premier match. Donc c'est pour ça qu'on parle de guichet fermé. Alors je vous dis, des billets vendus, mais même pas, parce que Gérard Lopez était tellement content de la décision mercredi. Et puis c'est surtout pour remercier le peuple bordelais qui s'est extrêmement mobilisé. Ouais. Vous avez vu des manifestations tout au long de l'été dans les rues du centre-ville de Bordeaux, des pétitions qui ont été faites pour que le club se sauve. Et pour remercier un petit peu cette mobilisation, Gérard Lopez a ouvert les vannes et il a dit que les billets seraient gratuits. Donc c'est parti en quelques heures sur le site des Girondins de Bordeaux et du coup tu te retrouves avec un stade à guichet fermé mais avec 22 000 supporters
et avec de l'ambiance. Ça va les changer pour les joueurs girondins qui
étaient... avait quand même de l'ambiance l'an passé. Alors il y a toujours eu les ultramarines, ils sont encore là,
ils ont fait le boulot, c'est vrai. Voilà. Il faut leur rendre hommage.
Franchement, pour le coup, et c'était un peu d'ailleurs le paradoxe, et même nous on s'est dit, je sais pas si tu te souviens la saison passée, mais on était surpris de voir le soutien inconditionnel des ultramarines alors que le club,
ils ont pas lâché. Non c'est vrai, tu fais bien de le rappeler,
était en déliquescence totale. Ils les ont jamais lâché, peut-être un peu trop des fois, parce qu'on a, ça a peut-être manqué un peu de ce contre-pouvoir pour réveiller les joueurs, pour réveiller la direction en place. Mais en tout cas, s'il y a bien un truc qu'on peut pas reprocher aux ultramarines et aux supporters des Girondins, c'est leur soutien inconditionnel tout au long de la saison dernière, et ils répondent encore présents aujourd'hui.
Bordeaux-Valenciennes, c'est l'une des affiches à suivre de cette première journée de Ligue 2 saison 2022-2023. Nicolas Parlancy vous la commentera en direct tout à l'heure à partir de 19h autour de l'ami Benoît Boutron qui viendra dans quelques instants dans ce studio. On a encore quelques minutes, Nico, pour parler du côté sportif hein, de oui. cette rencontre. Est-ce qu'on a des infos sur la compo? Parce que cette compo, elle n'est peut-être pas celle qui se destine à faire toute la saison, parce que forcément, on attend encore du mouvement dans l'effectif des Girondins, maintenant qu'on sait qu'on va disputer cette saison en Ligue 2.
Alors ça, c'est sûr que Bordeaux va se renforcer. T'as quand même une inconnue, c'est une nouvelle audition devant la DNCG mardi prochain. La DNCG qui pourrait prononcer un encadrement de la masse salariale, voire une interdiction de recrutement. Bon, c'est pas du tout la tendance, mais quand même, il y a un peu cette épée de Damoclès qui est présente au-dessus de la tête du club, ce qui pourrait changer beaucoup de choses pour le recrutement. Mais sinon, Bordeaux va recruter, ça c'est une certitude, si tout va bien. Malgré tout, il y a quand même une équipe assez, je vais pas dire séduisante, mais solide sur le papier. Parce que David Guillon parle de 14 joueurs du centre de formation, mais t'as quand même Gaëtan Poussin qui a des matchs de Ligue 1 dans les jambes, qui est titulaire au poste de gardien. T'as un international norvégien, Gregersen, en charnière centrale. Le milieu de terrain, c'est très solide. Ignatenko est là, Junior Ronana, il y a Tom Lacou qui est capitaine, qui est tout jeune, mais qui a déjà deux saisons avec le groupe pro en Ligue 1. T'as Josh Maja qui revient à la pointe de l'attaque. T'as Wang Weizhou qui est sur le banc de touche. Alors il n'a pas joué un seul match de préparation, mais il est présent sur le banc. Et puis t'as des petits jeunes à très fort potentiel. On va scruter un joueur pour ce multi-ligue 2, c'est Logan Delaurier-Chaubet, qui a marqué 3 buts en prépa à 20 ans et qui est vraiment intéressant. Donc c'est moins pire, on va dire, que ce qu'on aurait pu penser. Voilà, du côté des Girondins, parce qu'on s'attendait vraiment à une équipe très très jeune. Finalement, il y a quand même un milieu de terrain, tu vois, qui a le niveau bas de tableau Ligue 1, on va dire.
Bon, voilà, de l'espoir pour les supporters girondins. Effectivement, si on leur avait dit ça il y a encore quelques jours, tu le rappelais, on aurait signé tout de suite. Côté valenciennois, à quoi faut-il s'attendre comme opposition pour les Girondins?
C'est un club qui est en reconstruction aussi. Ils ont terminé 16e l'an passé, les valenciennois. Départ de leur coach, remplacé par Nicolas Rabuel. On a fait énormément de changements à l'intersaison. On va jouer en 4-2-3-1. C'est une équipe très solide, avec notamment l'arrivée de Gauthier Larsonneur, l'ancien gardien de but de Brest, dans le but. Il y a Mathieu Debuchy qui est en charnière centrale, Hugo Bonnet en attaquant de pointe, Floyd Ayité, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, du Sporting Club de Bastia, qui est sur une aile. Donc c'est un club solide qui, contrairement à la saison dernière, a envie de démarrer très fort, parce que la saison dernière, VA était arrivé avec des ambitions au début de saison. Pourquoi pas jouer les troubles faits? Finalement, ils s'étaient effondrés en prenant que 6 petits points lors des 8 premiers matchs. Ils n'ont absolument pas envie de revivre ça. Donc ils ont envie de démarrer très très fort, face en plus à une équipe des Girondins qui est amoindrie. C'est peut-être l'occasion de lancer parfaitement leur saison.
Effectivement, Bordeaux-Valenciennes, l'une des affiches à suivre en direct sur RMC à partir de 19h. Tu seras au commentaire, Nicolas, Paolo Orsi, du côté du Matmut Atlantique, dans lequel on entend beaucoup d'ambiance. Ça va être chaud cette première journée de Ligue 2. On va finir de se plonger dans ce Bordeaux-Valenciennes en laissant les mots de la fin à Eliès, qui a composé le 32-16, qu'on est ravis d'accueillir dans l'Intégral Sport. Eliès, supporter bordelais. Salut Eliès.
Salut.
Salut, bienvenue dans l'Intégral Sport. Qu'est-ce que tu attends, toi, de cette saison des Girondins? On le disait, pour qui c'est déjà une victoire d'être aligné dans ce championnat de Ligue 2.
Je suis pas très confiant vu la composition d'équipe. J'ai peur qu'on soit trop optimiste, qu'on se dise qu'on est Bordeaux, qu'on va remonter. On joue dans un championnat où ils sont quand même habitués. J'espère que la défaite de Saint-Etienne aujourd'hui contre Dijon va mobiliser les joueurs qu'ils ne perdent pas de concentration, gare à l'excès de confiance. Et j'espère que dans la saison, il y aura des recrues, parce que je ne pense pas qu'on puisse tenir avec une composition avec autant de jeunes. Je ne pense pas à ça. Ça m'inquiète beaucoup, ça.
Alors, tu as entendu Nicolas Paul aussi qui a dit que des mouvements, il allait y en avoir dans les deux sens, évidemment, parce qu'il faut quand même assurer les finances pour la saison qui vient. Tu es modérément confiant, mais malgré tout, tu ne penses pas que ça peut recréer quand même quelque chose entre, je ne sais pas, le club, la ville et le club? On parlait d'un manque de ferveur ces derniers temps. Peut-être que ce retour à l'échelon inférieur peut créer une dynamique, en tout cas d'amour entre les supporters bordelais et leur équipe.
Ouais, j'espère. Après, je veux dire, en termes d'influence, on n'est pas les meilleurs supporters, mais comme l'a dit Nico tout à l'heure, je veux dire, le virage de Bordeaux a toujours été là l'année dernière. J'espère que ce sera toujours le cas. Je ne crois pas trop, qu'il y aura du monde au stade. Là, c'est gratuit, c'est la première journée, c'est l'euphorie. J'attends de voir les matchs d'octobre, quand il va faire plus froid et tout. Je pense que ça va sonner creux. Mais j'espère que le virage foot va tenir son rôle. Mais le plus important, c'est que les joueurs tiennent leur rôle et que Guillon aussi fasse son rôle comme il avait fait avec le Stade de Reims. Apparemment, c'est le spécialiste de remontées. Ouais. J'espère que ce sera obstacle-là.
Il connaît le chemin, il connaît la recette, l'entraîneur bordelais, effectivement, qui n'a pas pu réussir à sauver les Girondins, mais qui va essayer de les faire remonter. Merci beaucoup, Elias, et on te souhaite une très bonne saison, une belle saison pleine d'espoir du côté de Bordeaux. L'Intégral Sport se poursuit dans un instant, mais cette fois avec du live, avec Benoît Boutron. Désolé, c'est la deuxième fois de la journée que je fais la passe à Benoît Boutron, mais l'immense Benoît Boutron qui prend les manettes pour vous faire vivre en direct 8 rencontres de cette première journée de Ligue 2. On va se régaler, on l'a dit toute la journée, mais on va se régaler.
Et là, c'est pas pareil.
Mon cher Benoît, et là, c'est pas pareil. Avec toi, c'est pas pareil ou avec
non, avec Ligue 2, avec les matchs. Non, mais surtout qu'on est partout. On est à Bordeaux pour Bordeaux-Valenciennes, on est à Metz pour Metz-Amiens, à Bastia pour Bastia-Laval et au Havre pour Le Havre-Grenoble. On va se régaler avec nos correspondants, avec Sébastien Piocel et un invité d'ailleurs à 19h45, Daniel Congré, le capitaine de Dijon, pour revenir sur la belle victoire dijonnaise face à Saint-Étienne cet après-midi de 2-1. Merci Monsieur Dutin, à demain matin.
Le plaisir est pour moi, à demain matin. Bon cher Benoît, on se refait des passes demain matin dans le studio de RMC.
Et on arrive dans un instant pour la Ligue 2, c'est parti.
Salut.
RMC Intégral Foot.